Merci d'être venus si nombreux pour nous écouter. Et pour me présenter en quelques mots, donc je travaille à l'aide Alexandre en détresse depuis maintenant un peu plus de 3 ans, en tant que journaliste. Donc je participe à la création de ce magazine que vous connaissez tous, j'espère, L'Église dans le monde, qui paraît tous les 2 mois, et dans lequel on raconte les situations des minorités chrétiennes en danger dans le monde. Je dis minorité parce que l'essentiel du temps, c'est ça. C'est des populations qui sont minoritaires et qui donc sont soumis à une pression de l'État ou de la communauté majoritaire où ils habitent. Et par ailleurs, je travaille pour le site internet de l'aide à l'Église en détresse, sur lequel nous publions aussi des actualités toujours consacrées aux chrétiens que nous aidons à travers le monde grâce à l'aide de nos donateurs. On couvre l'essentiel des pays dans le monde. Les pays du Nord sont plutôt des pays donateurs, et puis les pays du Sud sont plutôt les pays qui reçoivent l'aide que nous donnons. Mais évidemment, il y a des exceptions, comme l'Ukraine, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, l'Ukraine, historiquement, c'est un pays très important pour l'aide à l'Église en détresse, et ça l'était bien avant qu'il y ait les événements qui adviennent depuis le début de l'année, depuis l'invasion russe du 24 février 2022. Parce que l'Église ukrainienne est une Église en reconstruction, c'est une Église qui a des racines très profondes, mais qui a besoin de l'aide, de notre aide pour se reconstruire depuis l'indépendance du pays en 1990. Sans détailler toute l'histoire de l'Ukraine, je peux quand même vous dire quelques mots de son passé lointain. À l'origine, ceux qu'on appelle aujourd'hui des Ukrainiens, ce seraient plutôt les Ruthènes, on appelait ça dans le passé. Ukraine, ça signifie en russe la frontière, donc c'était une population qui était à la marche, à la frontière de l'Empire russe. Et par le passé, ce n'était pas un État constitué, comme on le voit maintenant, un État indépendant avec sa propre politique, sa propre économie, supposée être tout à fait indépendante des pays autour. Il y a eu une période d'indépendance en 1918, donc juste après la révolution de 1917 dans la Russie, qui n'était pas encore l'URSS. Mais cette période d'indépendance est finie en 1920. Et il n'a depuis retrouvé l'indépendance qu'en 1991. Donc en fait, dans son histoire, c'est comme si c'était un tout jeune pays qui venait de naître. Et d'ailleurs, il a les problèmes des tout jeunes pays qui viennent de naître. C'est-à-dire que c'est souvent des pays qui sont soumis à une classe politique qui n'a pas d'expérience de la politique et qui est facilement corrompue. Et ça, c'est, en Ukraine tout particulièrement, la corruption est un très gros problème. Et ça explique une grande partie des problèmes qu'ils ont maintenant. Par le passé, dès 1780, puis après en 1875, il y a eu plusieurs tentatives de la Russie pour contraindre les catholiques d'Ukraine, donc qui sont les églises latines et l'église gréco-catholique, donc de rite grec mais qui est unie à Rome. Les Russes ont tenté de les contraindre à rejoindre l'église orthodoxe, parce que c'était pas normal pour eux d'avoir des populations qui appartenaient à l'Empire russe, qui en plus sont très proches des Russes, c'est même là que la Russie est née au fait, parce que le moment de la naissance du peuple russe, et puis ce qui va devenir après la principauté de Moscovie, c'est né au fait à Kiev. Donc pour un russe, c'était tout à fait insupportable, enfin, pour certains potentats russes, c'était tout à fait insupportable d'imaginer qu'on allait avoir une église catholique dépendante de Rome, alors que eux se sont toujours vécus comme une nouvelle Rome, ou comme le nouveau centre du christianisme mondial. Alors il y en a eu plusieurs qui ont eu cette tendance-là, et en particulier Catherine II, la fameuse Catherine de Russie, qui s'est montrée particulièrement brutale dans sa façon de faire. 250 000 catholiques de l'église gréco-catholique ont été rattachés de force à l'église orthodoxe. On ne leur a rien demandé. À la mort de la Catherine de Russie, tous ces catholiques sont revenus à l'église gréco-catholique, parce que le successeur n'a pas opéré à la même politique. Plus tard, donc un siècle plus tard, le tsar Nicolas Ier a repris le projet de Catherine. De la même façon, on a pris des centaines de milliers de catholiques de l'église gréco-catholique et on les a contraints à rejoindre l'église orthodoxe. Il l'a fait aussi pour les Polonais, qui étaient donc, comme ils le sont maintenant, de l'église latine, qui ont été contraints de rejoindre l'église orthodoxe. Et de la même façon, c'était souvent à une conversion de façade. Alors, on disait qu'on était orthodoxe, puis dans les fêtes, on continuait à aller à l'église catholique. Le prêtre qui était censé être orthodoxe était au fait catholique en secret. Il y a beaucoup de situations comme ça qui se sont créées avec le temps. Et évidemment, ce lourd processus historique, vous comprenez bien que ça pèse encore de nos jours sur les relations entre les Ukrainiens et les catholiques, et y compris entre les chrétiens, entre les églises. La situation a été tout à fait dramatique, évidemment, après, au moment de l'URSS, parce que les tsars étaient sûrement des potentats, mais ils n'avaient pas la puissance qu'avait l'URSS, et ils n'avaient pas la volonté d'annihilation qu'a pu avoir l'URSS après. Le fameux Joseph Staline, évidemment, en premier lieu. En 1930, il a déporté 1 million de koulaks. Donc les koulaks, c'était les paysans riches, entre guillemets, qui étaient donc des Ukrainiens, qui possédaient cette terre d'Ukraine qui est la plus riche du monde, paraît-il. Et ils ont été déportés, donc une grande partie d'entre eux sont morts en déportation. Et puis dans les années suivantes, donc en 1932-1933, il y a eu le fameux Holodomor, qui est cette extermination des populations ukrainiennes par la faim, qui a été décidée par Staline, et qui était une famine parfaitement artificielle. Il y a eu d'autres famines dans l'histoire de l'URSS, j'y reviendrai peut-être un peu après, mais celle-là, elle ne se justifiait par aucun aléa climatique. Les récoltes avaient été bonnes, c'était parce que Joseph Staline considérait les Ukrainiens comme des opposants potentiels, qui s'est débrouillé pour en exterminer le plus grand nombre possible. C'est à ce moment-là aussi qu'il a eu cette expression de solution finale de la question religieuse. Donc il voulait résoudre la question religieuse, et en premier lieu les catholiques, parce qu'il n'aimait pas les chrétiens orthodoxes, Staline, mais il aimait encore moins les catholiques, parce qu'ils étaient suspects toujours d'être affiliés à Rome. Et il avait un plan qui s'appelait « Plus de Dieu » en 1937. Donc en 1937, il n'y avait plus de mention à Dieu, plus de chrétiens, tout ça devait être fini. Comme on l'a vu, ça a raté, comme quoi même un dictateur qui possédait un état de la puissance de l'URSS ne peut pas tout faire. Après, dans la période 1930-1940, c'est le moment où Staline est allié avec Hitler, annexe la partie orientale de la Pologne, cette partie qui va être après attachée à l'Ukraine assez artificiellement. Et à ce moment-là, 400 000 Ukrainiens et 800 000 Polonais sont déportés. Donc toujours la même logique d'élimination de toutes les populations qui peuvent être considérées comme des ennemis. Pendant la période de 1941 à 1944, c'est-à-dire la période de l'occupation allemande de l'Ukraine, il y a eu 5,5 millions de morts. Donc là, je ne parle que de cette période-là. Ça représente un sixième de la population ukrainienne. Donc morts des faits de guerre, morts des faits évidemment des massacres de la Shoah et des autres massacres opérés par les nazis sur cette terre-là. Après ça, en 1946-1948, donc là l'Ukraine est dans l'URSS, il y a une nouvelle famine qui pour le tout coup n'était pas artificielle, mais qui était simplement liée aux conséquences de la guerre et à la mauvaise gestion de l'État soviétique qui a sévi en Ukraine. Et c'est à ce moment-là que l'Église gréco-catholique, dont je vous ai parlé déjà quelques fois, depuis le début de la conférence, a été considéré comme anéanti par Joseph Staline. Je ne crois pas l'avoir fait encore, là. Il faut que je vous précise qu'en Ukraine, il y a deux grandes églises catholiques. L'église catholique latine, qui est essentiellement polonaise, parce que le clergé est essentiellement polonais, puis c'est des populations polonaises qui sont dans cette église-là, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des Polonais qui habitent en Ukraine, ensuite parce que la partie occidentale de l'Ukraine actuelle est historiquement plutôt polonaise. Alors, les Ukrainiens ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est un débat dans lequel je n'entrerai pas. Mais en termes de population, ils parlent polonais, ils sont de l'église latine, donc on les considère quand même plutôt comme des Polonais. L'autre église historique très ancienne, c'est l'église grecque, gréco-catholique, donc de rite grec, qui pour le coup est éparpillée sur l'ensemble du territoire ukrainien. Dans cette église grecque catholique, il y a eu plusieurs belles figures, notamment un certain Petro Moïla, j'avais vu une icône de lui, il avait vraiment la tête des patriarches orthodoxes avec la grande barbe et l'habit qui ressemble aux habits des orthodoxes, mais qui s'était beaucoup inspiré des écoles jésuites. Et évidemment, c'était assez mal vu de s'inspirer des écoles jésuites, mais qui était déjà un uniate, c'est-à-dire qu'il souhaitait retrouver l'union entre les orthodoxes et les catholiques. Et beaucoup de grecs, catholiques, ukrainiens ont ce désir-là profond de retrouver l'unité des églises. C'est ce qui leur vaut d'ailleurs en partie l'inimité des potentats russes qui confondent leur pouvoir temporal avec le pouvoir spirituel. Alors, pour l'aide à l'église en détresse, l'Ukraine est devenue très vite un territoire à surveiller et à aider, parce que le fondateur, le père Werenfried, comme vous le savez peut-être, a commencé par aider d'abord en Allemagne, puis après à aider plusieurs pays soviétiques de l'Est. Il s'est dirigé naturellement en Ukraine, où il a vu une église qui était complètement anéantie. Staline avait interdit tous les prêtres, tout le clergé grec catholique. Ils avaient le choix entre la déportation au goulag ou rejoindre l'église orthodoxe. Et une grande partie d'ailleurs a choisi le goulag, ce qui prouve qu'ils étaient vraiment attachés à leur particularité, à leur foi et à leur attachement à Rome. Malgré tout, il y avait une église souterraine qui existait. Et à partir du moment où le père Werenfried en a entendu parler, il a commencé à accumuler des fonds qui étaient gardés de côté et qui seraient libérés au moment de la libération de l'Ukraine que tout le monde attendait. En 1991, donc, l'Ukraine devient indépendante, fin de l'URSS. Et là, à ce moment-là, ça a été une explosion. On a découvert des catholiques. Des voisins se sont découverts, ça c'est Didier Rance qui décrit, je me reporte souvent à lui parce que c'est l'ancien président de l'aide à l'église en détresse, et il a passé une grande partie de sa vie dans les pays d'Europe de l'Est, et en Ukraine en particulier. Il a écrit ce livre-là il y a quelques mois, il en avait écrit un autre sur les catholiques d'Ukraine il y a 20 ans de ça, et là c'est le livre actualisé. Donc, il possède bien le sujet et il connaît bien ces populations parmi lesquelles il a beaucoup d'amis. Donc il y a de grandes explosions de joie, et puis le retour de beaucoup de sanctuaires qui avaient été transformés en musées de l'athéisme, ou qui avaient été donnés à l'église orthodoxe, ou qui avaient été laissés à l'état de ruine. Énormément de sanctuaires qui ont vu des processions arriver du jour au lendemain, des catholiques revenir. Alors ça a été une très belle image, mais pour que cette image dure, il a fallu reconstruire l'église, parce que même si les catholiques existaient toujours, même s'ils étaient toujours attachés à leur église, quand on ne peut plus recevoir les sacrements officiellement, quand on n'a pas toujours un prêtre à qui s'adresser, naturellement les fondements de la foi deviennent fragiles. C'est pour ça que l'aide à l'église en détresse s'est attachée à aider à reconstruire l'église ukrainienne renaissante. Donc c'est une église très dynamique, avec beaucoup de vocations sacerdotales, ce qui est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que, justement, on en manque beaucoup. Parce qu'il y avait, comme je vous le disais, il n'y a pas eu de séminaire en Ukraine pour les catholiques pendant plus de 50 ans. Donc forcément, il n'y avait pas de prêtres formés. C'est ce qui explique que en Ukraine, c'est là que les évêques les plus jeunes sont nommés. Alors il y a peut-être quelqu'un qui a battu le record, mais récemment, il y avait eu un évêque de 38 ans qui avait été nommé en Ukraine. Parce qu'on n'avait pas de prêtre de toute façon de plus d'expérience à nommer, donc ça a été un évêque de 38 ans qui a été nommé. Il y a eu donc tout à reconstruire dans les paroisses, dans les lieux de culte, et c'est pour ça que depuis 1991, l'Ukraine a toujours fait partie des pays qu'on a aidés prioritairement, et dans les 10 dernières années, l'Ukraine était toujours dans le top 5, c'est-à-dire dans les pays auxquels on donne le plus d'argent. C'est comme ça que je compte dans le top 5, je veux dire. Voilà pour les événements passés. Alors, les événements récents, je pense que vous avez tous en tête 2014, l'Euromaïdan, il y avait eu la révolution orange avant, en 2004, puis à nouveau une nouvelle révolution en 2014. Je vais essayer de ne pas faire trop de géopolitique et de rentrer dans qui a fait quoi, qui est responsable de tout ça, parce que c'est des situations qui sont compliquées. Je ne veux surtout pas décrire une Ukraine qui serait idéale et une Russie qui serait diabolique, parce que ce n'est pas du tout le cas. Au moment de l'indépendance de l'Ukraine, il y avait eu un sondage qui avait été fait pour savoir est-ce que vous voulez être indépendant ou est-ce que vous voulez rejoindre la Russie. Tous les États, y compris les États de l'Est qui étaient plutôt russophones, ont voté pour être indépendants avec l'Ukraine, à l'exception très notable de la Crimée. La Crimée était déjà pro-russe, parce que habitée par des Russes. Là, le même sondage refait un peu après 2014 donnait des résultats très différents. On avait au contraire 80% de résultats favorables à un État indépendant, on ne parlait pas d'annexion de la Russie, et de se dépêtrer de l'Ukraine. Parce que ça s'explique. Le grand espoir nationaliste qui est né avec l'Ukraine s'est fracassé sur la réalité. La réalité, c'était des classes politiques héritières de la période soviétique et profondément corrompues. L'Ukraine est l'un des pays les plus corrompus au monde. En 1991, toujours, quand elle a été indépendante, elle avait un PIB qui était plus fort que celui de la Pologne. Là, avant la guerre, il était deux fois inférieur. Et ça s'explique essentiellement par la corruption et par l'absence de bonne gestion du pays. Après, donc, en 2024, je pense que vous avez tous en tête l'annexion de la Crimée, hein, qui est décidée. Oui, 2014, voilà. L'annexion de la Crimée en 2014 par Vladimir Poutine. Là aussi, c'est un sujet plus compliqué, mais au fait, je suis persuadé que si on avait fait voter les Criméens, ils auraient tous voté pour rejoindre la Russie, pour la raison que je vous ai dit précédemment, parce qu'en 1991, eux étaient déjà pour rejoindre la Russie. Donc on peut discuter de la façon de faire, de tout ce qui s'est passé internationalement, mais c'est pas mon sujet principal. En 2022, quand, j'y tiens, quand en 2022, quand l'armée russe pénètre en Ukraine avec la volonté de faire tomber le régime ukrainien pour accorder l'indépendance aux oblasts de Kherson et de Donetsk, personne, je pense, ne s'attendait à ce que le conflit éclate aussi vite, enfin très peu de gens en tout cas, moi pas du tout, ça c'est certain, mais très peu de gens, même qui connaissaient bien le sujet, pouvaient s'attendre à une telle explosion de violence. La résistance de l'Ukraine a surpris tout le monde, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce pays qui avait eu de telles difficultés par le passé résiste de cette façon. Une des raisons de ça, c'est que la guerre en Ukraine ne date pas de 2022, elle a commencé en 2014, et elle concernait à l'époque évidemment simplement l'Est, mais à l'Est, l'armée ukrainienne n'avait jamais été capable d'anéantir la résistance des indépendantistes. Donc on n'imaginait pas que cette armée-là, qui s'était montrée incapable d'affronter des indépendantistes, puisse résister à l'armée russe, qu'on considérait comme la deuxième armée du monde il y a encore quelques mois seulement. Alors voilà, là c'était un peu de géopolitique, mais je repasse au fond de mon sujet. Le fond de mon sujet, c'est que l'Église catholique ukrainienne, elle reste complètement sur le fond. Nous avons beaucoup de témoignages d'évêques, de prêtres qui restent avec leurs paroissiens et qui nous font part de ce qu'ils vivent au quotidien. Alors là, je vais vous lire un petit texte qui nous a envoyé par l'évêque de Kharkov, donc de l'exarchat, pardon. L'exarchat, c'est un peu compliqué, l'église grecque catholique, de Kharkov, qui a été créé seulement en 2014, donc c'est un exarchat tout récent, et qui couvre la taille de l'Autriche. Donc, c'est assez vaste. Alors il écrit: « Nous avons commencé notre travail avec les fidèles de l'église grecque catholique, principalement d'anciens étudiants restés à Kharkov et d'anciens déportés en Sibérie. La plupart des paroissiens sont des locaux maintenant, ils ont trouvé la foi au contact de nos paroisses. Je pense que notre tâche est de labourer pour réparer le terrain. Après nous, viendront ceux et celles qui sèmeront les générations futures et récolteront, comme l'a dit saint Paul. La plupart des gens qui viennent prier maintenant sont ceux qui ont commencé à venir pendant la guerre. Parfois, après des années de vie ensemble, ils veulent se marier ou baptiser leurs enfants. » Alors, ce qu'il nous décrit là, c'est qu'à l'Est, dans cette région qui est très russe, hein, par la population, par la langue, l'Église grecque catholique était assez peu implantée. Donc, c'est pour ça qu'il y a un exarchat aussi grand, parce que pour avoir le nombre de fidèles suffisant, il faut évidemment que ce soit assez grand. Et il est dans un travail de préparation pour convertir, pour évangéliser dans cet endroit-là. Et c'est complètement malgré lui qu'il s'est retrouvé sur la ligne de front, parce que si vous suivez les actualités, Kharkov ou Kharkiv en ukrainien a failli être prise par l'armée russe, elle était complètement encerclée à un moment donné. Et à l'heure où je vous parle encore, l'armée russe n'est pas loin, il y a encore des bombardements qui continuent. Alors il concluait en disant: « Merci pour votre soutien et votre coopération. Nous avons répandu la parole de Dieu dans l'Est de l'Ukraine grâce à vous. Le réveil de la foi exige beaucoup de temps et beaucoup de travail, en commençant par les structures de base qui fournissent les lieux de prière et de catéchisme. Chacun de nos prêtres célèbre la messe au moins une fois par mois pour les intentions de nos bienfaiteurs. » Voilà. Dans le même oblast, dans le même exarchat, pardon, dans le diocèse latin, c'est Mgr Pavlo Honcharuk qui décrit là pour le coup la situation de guerre. Il dit « Nous sommes dans une situation de tension permanente, nous sommes constamment en attente. Avant-hier, il y a eu une explosion, alors il parlait il y a un mois, il y a environ 1000 ou 1200 mètres de chez moi. Hier soir, les bombes ont tapé quelque part tout près. Je sais que je n'aurai pas le temps d'entendre le missile qui me tombera dessus, donc j'entends une explosion. Quand j'entends une explosion, pardon, cela signifie que je suis toujours en vie. Nous sommes préparés à une mort soudaine et inattendue. Cela signifie que nous allons souvent au sacrement, en particulier à la confession. C'est une expérience complètement nouvelle, un mode de vie différent. Le matin, je me lève et je me rends compte que je suis en vie. » Alors, c'est presque optimiste sa façon de voir les choses, mais on imagine la quantité de souffrances hein, et de difficultés qui vivent au quotidien et le très grand courage de ces prêtres. Je vous ai pas ramené tous les témoignages, ça ferait beaucoup de choses à lire, je préfère vous parler simplement, mais on avait eu aussi un prêtre missionnaire qui venait de Rio, donc un Brésilien, qui était à Kiev et à qui la question avait été posée, est-ce que tu vas partir ou pas, parce qu'il était dans la banlieue nord-ouest, donc là où les troupes russes ont attaqué au tout début, si vous vous souvenez des cartes. Et voilà, la question était de savoir est-ce qu'il part ou pas. Non, il a décidé de rester. Alors il faut imaginer le changement de culture, de climat, de tout que ça doit représenter pour un prêtre missionnaire brésilien de se retrouver en zone de guerre en Ukraine. Le courage que ça demande. Mais en tout cas, il prétendait qu'il ne voudrait pas être ailleurs, qu'il avait trouvé le contact avec ses paroissiens et que les liens s'étaient tissés tout particulièrement en cette période de guerre, justement. C'est quelque chose qui revient aussi chez les moines, les religieuses qui nous écrivent, c'est qu'elles disent la période de guerre a fait que beaucoup de personnes qui ne passaient plus le seuil de l'église viennent nous voir parce que on offre une aide de première nécessité bien sûr, mais elles viennent nous voir aussi pour nous parler, elles viennent parce qu'elles découvrent notre existence. Parce que malgré toute la résistance que peuvent avoir eu les chrétiens pendant la période communiste, il y en a quand même beaucoup qui ont disparu pendant cette période-là. L'Ukraine était un pays complètement chrétien, orthodoxe et catholique. Avant l'URSS, la période soviétique a fait énormément de mal à ce pays. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait des lois sociétales aussi lâches, aussi permissives dans ce pays. En particulier, c'est de là que viennent beaucoup de mères porteuses. La GPA est très, très généralisée dans ce pays. Avec toutes les conséquences que vous connaissez. Sur la crise actuelle, là je prends un temps d'arrêt parce que je veux faire surtout attention à jamais simplifier. On a eu énormément de courriers suite aux publications de notre magazine sur les questions ukrainiennes. Et quelquefois c'était dans un sens, quelquefois c'était dans un autre. La situation est vraiment pas simple et l'offensive de 2022 est une catastrophe pour tout le monde. C'est une catastrophe évidemment pour l'unité des chrétiens. Il y avait ces conflits qui existaient par le passé, mais ils sont exacerbés maintenant. Et ce conflit-là, il n'a pas commencé en 2022. Comme je vous le disais, en 2014, ça avait déjà commencé. Les décisions qui ont été prises au sommet de l'État ukrainien d'interdire le russe, y compris dans les parties orientales où c'est la langue principale, ont été catastrophiques et ont été très mal vécues. Elles répondaient, parce que je vous disais que dans l'histoire, il y avait eu beaucoup de tentatives d'obliger les catholiques à rejoindre l'église orthodoxe, il y a eu aussi beaucoup de tentatives d'obliger les Ukrainiens à parler russe. Donc c'est une réponse, si vous voulez. Ça peut s'expliquer historiquement, mais évidemment, ça ne justifie pas ce comportement, et tout ce qui va dans ce... dans ce sens-là, nourrit la haine des deux peuples, alors que ce sont deux peuples frères qui ont vraiment des racines communes. Ils ont divergé à un moment de leur histoire, mais ce sont des peuples frères. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Russes de Moscou, à l'origine, n'étaient qu'une population parmi les autres, et ils ont constitué un empire qui, d'une certaine façon, répondait à l'empire byzantin qu'ils avaient en face d'eux. Ils s'imaginaient comme la nouvelle Constantinople, le nouvel empire, c'était l'empire russe. Le mot tsar, d'ailleurs, vient de ça. Tsar, ça veut dire César, c'est le nouvel empereur. Donc, il se sentait cette vocation-là, en face de l'empire byzantin d'abord, et ensuite en face de l'empire ottoman. Donc, ils ont intégré énormément de populations en faisant ça, et ils ont rencontré face à eux des populations ethniques qui leur étaient hostiles. Les Ukrainiens n'étaient pas dans ce cas-là au tout début. Ils étaient beaucoup moins différents d'eux que les Baltes, par exemple, ou que les Polonais, encore plus, avec qui il y a eu des conflits incessants. Mais dans la situation actuelle, je pense qu'on comprend bien qu'on ne peut pas demander à un Ukrainien dont les grands-parents ou arrière-grands-parents ont vécu l'Holodomor de vivre en Russie. Enfin, c'est comme si on demandait à un Arménien de vivre en Turquie, si on contraignait de vivre en Turquie. Je pense qu'il faut bien avoir ça en tête avant de tirer des conclusions hâtives ou avant de dire c'est la faute d'un tel ou d'un tel. L'un des problèmes qui s'est passé avec l'offensive russe, je vous disais tout à l'heure que ça a surpris tout le monde, c'est que par le passé, quand l'armée russe est intervenue au Moyen-Orient en particulier, mais aussi en Afrique, on avait affaire à des groupes d'élite russes qui avaient des résultats très importants, enfin qui avaient des résultats impressionnants. Là, c'est toute l'armée qui a été mise en branle et on a vu que le gros de l'armée n'était clairement pas au niveau et ça explique une partie de la situation actuelle. Pour autant, moi, je vois beaucoup de mes contemporains qui regardent cette histoire-là et qui se réjouissent de ce qui se passe, qui disent « Regardez, c'est bien, les Russes se font rétamer, les Ukrainiens gagnent. Pour connaître un petit peu maintenant la situation du Caucase, du Moyen-Orient et du nord de l'Afrique, c'est très inquiétant ce qui est en train de se passer. Parce que la Russie, malgré tous les défauts de ce régime, maintenait une certaine paix dans beaucoup de pays. Alors, depuis l'offensive en Ukraine et depuis l'échec russe, on a vu des tensions réapparaître dans des régions qu'on n'imaginait pas, comme le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Alors ça, c'est quand même très lointain, mais ils ont un conflit frontalier qui était en souffrance depuis la chute de l'URSS. Et là, ils ont recommencé. Il y a eu 80 morts, c'est pas rien. Il y a eu surtout, à nouveau, des bruits de bottes du côté de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Vous vous souvenez de cette affaire de 2020 où l'armée de l'Azerbaïdjan a écrasé l'Arménie et a récupéré une partie du territoire qui était occupé par les Arméniens. Là, ça continue. Il y a eu une nouvelle offensive au mois de septembre. Là, il y a un statu quo actuel, mais l'armée de l'Azerbaïdjan n'a pas cédé les territoires qu'elle avait reconquis en violation de tous les traités internationaux. Je ne pense pas qu'elle se serait permis de faire ça à l'époque où la Russie était considérée comme la deuxième armée du monde. Ensuite, là c'est un sujet qui m'inquiète aussi beaucoup, c'est qu'à l'AED nous suivons les chrétiens de Syrie. Les chrétiens de Syrie ont été menacés de disparition totale au moment où il y a eu la révolution contre le régime de Bachar al-Assad. Là aussi, il ne faut surtout pas simplifier. Mais le régime de Bachar al-Assad permettait aux chrétiens quand même de vivre là-bas, alors que l'alternative ne l'aurait pas permis. Les djihadistes ne laissaient pas les chrétiens vivre sur cette terre-là. Or, ce régime-là a tenu grâce au soutien de la Russie. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a 3 semaines, il y a eu un attentat à Istanbul qui a fait tué plusieurs personnes. Immédiatement, dans les heures qui ont suivi, Recep Tayyip Erdogan, donc le président turc, a affirmé que c'était un coup des Kurdes et qu'il avait été commandité depuis Kobané. Donc, Kobané, qui est cette ville au nord de la Syrie qui est tenue par les Kurdes. Et il a dit, maintenant, on va reconquérir ce territoire qui appartient à l'Empire ottoman, parce que lui, au fait, il a dans la tête de reconstituer l'Empire ottoman. Et si la Russie n'est pas là pour défendre, pour soutenir l'armée de Bachar al-Assad, on imagine mal la Syrie s'en sortir. Et donc, ça va probablement déclencher de nouvelles frictions, parce que s'il tente ça, c'est comme pour les deux affaires précédentes, c'est parce qu'on a l'impression que le gendarme du monde a les mains prises ailleurs. Alors avec un bémol très important sur l'expression de gendarme du monde, c'est que Vladimir Poutine a réagi très tardivement dans l'affaire de la guerre de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. L'Azerbaïdjan a attaqué en 2020 en complète impunité pendant 40 jours, alors que la Russie aurait probablement pu ou dû intervenir bien avant. Donc ça, c'est pour ceux qui me disent que Poutine est le rempart des chrétiens. C'est loin d'être aussi simple que ça. Et la réelle politique l'emporte toujours avec lui. Il ne s'est pas montré non plus très soucieux de défendre les Grecs quand les Grecs chrétiens, quand les Turcs, avancent leur pion dans la mer Égée, parce qu'ils disent cette île-là est proche de la Turquie, donc j'essaie de la reprendre. La Turquie, en ce moment, essaie de gagner du territoire partout, soit par la diplomatie, avec les pays turcophones comme l'Azerbaïdjan ou les pays de l'Est, soit carrément par la conquête militaire comme elle le fait en Syrie. Et à vrai dire, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les deux empires, l'empire turc, enfin l'empire ottoman et l'empire russe qui se font face à face. Ces deux empires qui ont été démantelés pour la Russie très récemment et pour l'empire ottoman au début du XXe siècle, et ces deux empires qui ont envie de récupérer les territoires qu'ils ont perdus par le passé. Et malheureusement, les populations marchent assez bien dans cette idéologie-là. Le grand malheur en Russie, c'est qu'actuellement, d'après les derniers sondages que j'ai vus, qui je crois sont sérieux, 70% des Russes soutiennent l'invasion de l'Ukraine. Et en Turquie, je suis persuadé qu'on aurait des résultats similaires. Parce qu'il y a ce passé, cette volonté de reconstruire un grand empire, et dans les deux cas, cette impression d'avoir été floué par l'Occident. Voilà. Ça se ressent aussi, malheureusement, cette espèce de conflit de civilisation qu'on essaie de nous jouer, que Vladimir Poutine joue à fond en disant qu'il est le rempart de l'Occident, ça se ressent dans les prises de parole d'un Kirill de Moscou, Kirill, donc le grand patriarche de Moscou. Il le dit, il y a un sermon de lui qui est très choquant, d'autant plus que Kirill, on l'avait suivi, il s'était rapproché du pape François, il avait des paroles qui étaient intéressantes, et là on a l'impression de voir un autre homme quand il fait des sermons de ce type-là, où il prétend que l'Occident est en décrépitude totale, et que face à cette Europe, à cette Amérique qui a complètement sombré et qui décline, il n'y a qu'un rempart, c'est la Russie moderne. Ça se ressent, donc les conséquences de ce conflit se ressentent aussi, parce que les orthodoxes d'Ukraine, qui jusqu'à présent étaient relevés majoritairement du patriarcat de Moscou, s'en sont détachés, et donc maintenant même ceux qui officiellement devaient être rattachés à Moscou se sont détachés de Kirill de Moscou. Pour vous faire là encore un historique très court, en 2018, sous l'impulsion du président Zelensky, il y a eu une église autocéphale orthodoxe ukrainienne qui a été créée, et il y avait en face d'elle une église orthodoxe russe. Maintenant, cette église orthodoxe russe, à part une frange très très minoritaire, a toutes rompu les liens qui normalement l'affilient au patriarcat de Moscou, parce que il y a la situation présente. Alors, pour conclure cette partie sur l'Ukraine, il y avait donc le primat de l'église grecque catholique, dont je vous ai parlé quelques fois, qui m'avait raconté une anecdote qui montrait à quel point cette église catholique, qui est assez petite, peut jouer un rôle de pont entre l'Orient et l'Occident. Il avait été invité, c'était avant la guerre, à l'époque où j'étais en Ukraine, donc en 2019, il avait été invité à faire un discours avant un concert donné dans une université. Alors il avait été très surpris, il disait « Non, tous ces étudiants sont des orthodoxes, enfin, il doit y avoir deux catholiques parmi eux, mais c'est tout. » Alors le recteur de l'université lui avait dit « Regardez, mes étudiants, j'en ai une moitié qui sont moscovites et une moitié qui sont de Kiev. » Enfin, moscovites, j'entends, qui relèvent du patriarcat de Moscou, l'autre moitié qui relève du patriarcat de Kiev. Vous, vous ne posez pas de problème. Tout le monde sait que vous êtes ukrainien et vous appartenez à l'Ukraine depuis longtemps. Donc je sais qu'en faisant dire le discours par vous, je ne pourrais pas être critiqué. Et c'est comme ça qu'il avait pu... Faire le discours d'entrée de ce concert alors qu'il était très peu représentatif de la population qu'il y avait dans cette université. Voilà, je conclue là. Si vous avez des questions, ben je suis là pour ça.